De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'après confinement et puis quelques semaines finalement avant eh bien, l'ouverture des salles de cinéma. Cinérama aujourd'hui va encore vous parler de films qui sont en VOD, mais pas seulement, on va aussi parler eh bien, des objets que sont les DVD. Bonjour Guillaume, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour.
Alors toi Guillaume, tu vas nous parler d'un film des années 70.
Oui, je vais vous parler du Bagarreur de Walter Hill avec Charles Bronson et James Coburn.
Et toi Manu, deux films.
Oui, dont First Love, le film de Takashi Miike qui est sorti donc en salle en janvier, qui ressort donc en VOD. Et puis L'écume des jours, une adaptation des années 60 du roman de Boris Vian.
Nous sommes 3 plus 1. Nous écouterons Marine qui a pu voir Il était une fois dans l'Est. Ce sera l'exclusivité VOD de cette émission. Et puis eh bien, on va commencer avec Le Mans 66 de James Mangold qui lui est disponible en VOD et DVD. C'est Cinérama.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Ken, on se connaît depuis quand? J'ai déjà trahi ta confiance. Je vais te mettre au volant d'une voiture au Mans. Alors ferme ta gueule et laisse-moi faire ce que j'ai à faire.
Si les salles de cinéma vont avoir la permission de reprendre le 22 juin, et bien dans d'autres secteurs drainant un public plus important, les organisateurs ont dû jeter l'éponge. C'est le cas notamment et bien des 24 heures du Mans. La mythique course automobile n'aura pas lieu au mois de juin. Une version virtuelle va être offerte aux spectateurs. Mais la vraie course d'endurance, elle, aura lieu en septembre prochain. Alors pour patienter un peu, pourquoi ne pas se replonger dans la course au travers d'une fiction bien documentée avec Le Mans 66 de James Mangold, sorti en novembre dernier et maintenant disponible en DVD. Le film est adapté de Go Like Hell, qui revient sur la rivalité historique entre Ford et Ferrari, un géant contre une insolente petite écurie italienne. Depuis le début des années 60, l'équipe d'Enzo Ferrari arrive toujours à boucler en tête les 24 heures du circuit de la Sarthe, mais en 66, eh bien, c'en sera fini. Alors, Le Mans 66 ne nous raconte pas cette chute, mais ce qui l'a conduite, soit la mise sur pied d'une voiture, la Ford GT40. Celle-ci incarne la volonté d'un homme, le petit-fils d'Henry Ford, d'en découdre avec la marque italienne, et puis eh bien, de s'imposer en Europe. Le pari est gagné.
Monsieur Ford, Ferrari a un message pour vous.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit que Ford fabriquait des petites voitures affreuses dans des usines affreuses. Et il vous a traité de gros, monsieur.
On va enterrer Ferrari au 24 heures du Mans.
Alors, ce que pense Enzo Ferrari de Ford est, paraît-il, hein, bien au-delà de ce qu'on entend ici. Alors, ce que nous apprend le film de James Mangold, qui a quand même un souci d'exactitude, même si c'est une libre adaptation, eh bien, c'est que le projet d'emmener Ford au Mans est avant tout un projet du petit gars du marketing. Mais si le constructeur américain, eh bien, finit par se retrouver sur la piste française, c'est avant tout pour une question d'ego. Cependant, le réalisateur américain ne fait pas que nous raconter les ficelles d'une réussite, il raconte aussi, eh bien, celle d'une rivalité amicale entre deux hommes. Le Texan Carroll Shelby, qui a été le premier américain à remporter les 24 heures du Mans et qui s'est reconverti en préparateur de voitures de course, interprété par Matt Damon, machin du chewing-gum, tout du long, et son pilote, le britannique Ken Miles, un type sombre, pas accommodant du tout, mais rapide, interprété par un Christian Bale qui s'en donne à cœur joie en équilibre sur la corde du cabotinage qu'il use régulièrement.
Il n'y a rien là-dedans qui parle de mon coffre et de votre charmante petite valise de malheur.
Vous tenez l'édition 62 du SCCA.
Et vous pouvez vous mettre ce putain d'autocollant sur ce qui ne doit pas souvent voir le soleil, d'accord?
Alors, Bill, quel est votre problème?
La voiture ne suit pas
Bill,
les règles.
Bill, ici présent, est le roi des connards.
Oui. Non, il le pense pas.
Oh, si, il le pense.
Non, non, il le pense
il
pas.
Est sincère quand il dit que Bill est le roi des connards.
Je fais juste
boulot. Bill, par mon expérience, je sais que... Écoutez-moi, dans ces cas-là, il y a toujours un terrain d'entente, hein? Ken a exagéré, d'accord.
Et moi, je fais que mon boulot.
J'ai bien compris. Les jours de course, il est toujours sur les nerfs, vous le savez, hein? Vous n'allez pas nous disqualifier pour un coffre.
Ainsi, le film est l'exploration d'une victoire. Alors si on y voit des courses de voitures filmées à l'ancienne, caméra tremblotante dans le cockpit, ou à ras du sol avec les regards des pilotes prêts à en découdre, Mangold raconte aussi une histoire d'hommes et leur fonctionnement. Le réalisateur est loin de glorifier Ford. Il montre au contraire combien ce duel entre les marques est puéril et une conséquence d'un jeu de pouvoir. Reste la course automobile, un sport bien plus présent aux États-Unis ou en Angleterre qu'en France. Hein. Et en parvenant à nous immerger dans le cockpit avec son pilote qui se montre bavard, Mangold laisse entrevoir ce que signifiait régler une voiture à une époque où il n'y avait ni ordinateur ni soufflerie. Le pilote, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, est capable de donner suffisamment d'informations pour qu'une voiture aille toujours plus vite. C'est l'un des aspects vraiment très documentés de cette fiction. Avec son film, James Mangold, à qui l'on doit l'excellent Logan, 3h10 pour Yuma ou même Copland, fait vibrer une sorte de nostalgie dans la simplicité de la forme et du sujet. Le Mans 66 a de quoi ravir les amateurs de voitures fanfaronnantes, mais aussi les curieux. L'écriture au cordeau, l'humour, l'interprétation, l'absence d'effets spéciaux concourent à faire de Le Mans 66 plus qu'un divertissement testostéroné, comme il en pleuvait dans les années 80 et 90. Ce film est disponible en VOD et en DVD, donc il était sorti en novembre dernier. Maintenant Manu, tu vas nous parler d'un autre film disponible en VOD, il était sorti en début d'année, c'est le film de Takashi Miike, un film entre burlesque, thriller et violence.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
Ça s'en passera aisément.
Alors, petite résurrection rafraîchissante pour le prolifique Takashi Miike, absent des écrans français depuis la sortie en 2011 du pourtant excellent Harakiri, remake du classique de Kobayashi. Alors, ce stakhanoviste de la pellicule revient avec First Love, polar ludique et déviant, violent et romantique, sur fond de guerre des gangs dans un Tokyo cosmopolite où se croisent des bandits issus de tous les pays asiatiques voisins. Il retourne à ses premiers amours, hein, le thriller urbain déjanté qui installa sa réputation à l'orée des années 90. Alors, produit par le très respectable Jeremy Thomas, à qui l'on doit notamment Le Dernier Empereur ou Le Festin Nu, First Love confirme la vitalité d'un artisan doué et malin. Il marque en apparence l'assagissement d'un cinéaste qui prétend ne pas vouloir être subversif à tout prix, avec ce qui ressemble au début à une version japonaise de True Romance de Tony Scott, narrant la fuite de deux amants poursuivis par une horde de tueurs sanguinaires. Alors, le héros est un jeune boxeur atteint d'une tumeur au cerveau. Ses jours étant comptés, il n'a plus rien à perdre. Il va donc protéger une prostituée trimballant un sac rempli de drogue convoité aussi bien par des yakuza, des gangsters chinois, des flics ripoux. Le point de départ est noyé par une multitude de personnages tous plus délirants les uns que les autres. La structure brouillonne du scénario alors se clarifie rapidement et une fois les enjeux posés, le spectateur est embarqué dans un furieux spectacle à la violence gratuite assumée et à l'humour bon enfant. Alors débarrassé d'un second degré à la mode, hein, et plutôt bienvenu qu'il soit absent ici d'ailleurs, hein, First Love emporte le morceau grâce à la caractérisation des personnages, à commencer par les deux amants, silhouette très émouvante, filmée par un Miike toujours aussi anard, mais aussi romantique et très candide dans sa relecture des codes du polar hard-boiled. Alors que la normalisation pouvait guetter le film, hein, Miike se lâche dans une seconde partie en roue libre, totalement punk, laissant éclater la fibre la plus libertaire d'un cinéaste passionné par tous ces oiseaux de nuit pour qui vivre à 100 à l'heure est un impératif. Alors son polar nocturne ressemble autant à un film d'horreur qu'à une comédie, dessinant en creux une société japonaise en déclin, rattrapée par la mondialisation via des figures meurtrières venant des quatre coins du globe. Takashi Miike se moque du bon goût, multiplie les effets grossiers, le gore qui tâche, les mouvements de caméra furieux et les décadrages constants, s'offrant même une petite incursion dans l'univers du manga. Alors porté par une partition free rock excellente, hein, et une galerie de comédiens impeccables, First Love, alors sans être un chef-d'œuvre, hein, se déguste comme un plat exotique et épicé en sirotant un alcool qui déchire la gorge. Et ça fait plutôt bien, en ces temps des fois politiquement corrects, de voir un tel film. Et pourtant, c'est plutôt sage par rapport à certains classiques du réalisateur.
Hein. Alors sachant que c'est un réalisateur extrêmement prolifique. Hein.
Oui, il a plus de 150 films, je dirais, hein, en l'espace de début 90 à aujourd'hui. Hein. C'est 40 ans de carrière et 150 films environ.
On écoute maintenant Marine a pu enregistrer une chronique. C'est celle de « Il était une fois dans l'Est une aventure extra-conjugale dans le froid russe ». C'était présenté dans la section « Un certain regard » à Cannes 2019.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Anna est une femme mariée, mère d'une jeune fille. Elle vit avec sa famille dans un petit village en pleine campagne russe. Toutes les semaines, elle va jusqu'à Moscou pour y vendre les tricots qu'elle confectionne. Mais ce que son mari ignore, c'est qu'elle fait en réalité le chemin dans le camion de son amant et voisin, qui est lui aussi marié. L'idylle demeure secrète pendant un temps, mais au rythme des saisons qui s'égrènent, au village les langues se délient et les rumeurs vont bon train, forçant les amants à prendre une décision. Projeté dans la section Un certain regard au Festival de Cannes 2019, Il était une fois dans l'Est est un véritable ravissement à chacun de ses plans. Si le titre français évoque le western, il n'a en commun avec Sergio Leone que son amour des vastes paysages, puisque le film s'apparente davantage à la chronique rurale qu'au film de cow-boy. Une chronique d'une Russie qui semble un peu désuète, figée dans le temps, dans laquelle la nature est omniprésente, les belles-mères aussi, puisque nous sommes ici ancrés dans la Russie profonde, où trois générations se côtoient fréquemment. Sous le même toit. Dernièrement, le cinéma russe s'est affirmé, notamment dans les diverses sélections du Festival de Cannes, mais force est de constater qu'entre les films de Kantemir Bagalov, à qui l'on doit Une vie à l'étroit, de Sergueï Loznitsa, réalisateur d'Une femme douce, ou encore ceux d'Andrei Zviagintsev, comme le remarquait Faute d'amour, eh bien force est de constater que le cinéma russe actuel se caractérise quand même par une certaine tendance à la neurasthénie, ou du moins une véritable âpreté dans son style. Une cinématographie russe qui reflète un quotidien souvent urbain, plutôt morne, voire dépressif, au sein de laquelle dénote « Il était une fois dans l'Est », un film lumineux, bucolique et optimiste. La réalisatrice Larissa Sadilova n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'elle a quand même à son actif 6 films et 22 ans de carrière. Ici, elle raconte un drame de la vie conjugale comme s'il s'agissait d'un conte moderne et universel, quoique très ancré dans la Russie rurale. Et si les dialogues ne sont pas légion, eh bien, c'est pour mieux apprécier la beauté des plans, dont certains évoqueraient presque les mélodrames hollywoodiens des années 50. Il était une fois dans l'Est une jolie chronique d'un amour interdit dans une Russie où le temps semble s'être suspendu.
Il était une fois dans l'Est, c'est une sortie exclusive en VOD. Voilà, ça a été le choix du distributeur qui n'a pas attendu que les salles réouvrent ce 22 juin. Et justement, eh bien maintenant, on va parler au travers d'un blind test, eh bien, des films qui ressortent ce 22 juin.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Marjane Satrapi n'a pas eu de chance. Elle a sorti son film le 14 mars. Il va ressortir au moment où les salles vont se réouvrir. Nous en parlerons à cette occasion. Mais j'ai décidé de vous proposer un blind test spécial biopic sur les femmes, puisqu'elle présente Radioactive, biopic sur Marie Curie. Comme d'habitude, 5 extraits d'une filmographie. Alors, c'est un peu pris au hasard. C'est pas forcément des bons films. C'est pas ça qu'on doit trouver. C'est simplement des films avec des biopics de femmes. Alors j'ai essayé de mettre des artistes, des scientifiques, des femmes politiques, des personnages historiques, voilà, enfin de détailler un peu tout ça. Chers auditeurs, c'est le premier extrait.
Que penserais-tu si je te disais que les tableaux de chevalet que tu fais, c'est fini? Que c'est à balancer aux ordures avec les autres passe-temps élitistes bourgeois?
Je répondrais à arrêter la propagande.
C'est du très bon travail. Tu as un véritable talent.
Oh, s'il vous plaît. Je ne suis pas en quête de compliments. Ce que je veux, c'est une vraie critique.
Mais je suis sincère. Je la trouve très originale, ta peinture. Aucun des artifices habituels.
Mais c'est... ça, c'est pas assez précis.
Tu dois savoir accepter les compliments aussi bien que la critique.
Alors, il s'agit évidemment de trouver un biopic sur une artiste. Une artiste peintre, évidemment. Alors, peut-être que les auditeurs ont déjà trouvé, vous n'avez pas trouvé. Alors, un petit indice, c'est une artiste vraiment majeure, une artiste féminine vraiment majeure, avec un style très personnel. Bon, si je vous dis qu'elle est mexicaine, c'est un peu trop simple.
Ah, Frida, ouais.
Voilà, c'est Frida. Donc, Frida, film américain de Julie Taymor, sorti en 2002, qui relate la vie de la peintre mexicaine Frida Kahlo, en s'inspirant du livre que lui a consacré l'historienne de l'art Aiden Herrera. Deux Oscars, celui du meilleur maquillage et celui de la meilleure bande originale, et 570 000 entrées en France. Deuxième extrait.
Servir des viandes froides lors d'une partie de chasse n'est pas la conduite la plus séante pour une future reine de France.
Je m'efforçais de faire bonne figure à la chasse du dauphin, sans manquer en rien à la bienséance.
J'ai reçu une lettre de madame votre mère. Vous devriez éviter de monter à cheval parce que cela cause des fausses couches.
Oui, hélas, vous et toute la cour savez qu'il n'y a aucun danger. Et que je ne suis pas en faute.
Vous rendez-vous compte des conséquences qu'aurait la non-consommation de votre mariage? Il pourrait être annulé.
Ça a été trouvé, Guillaume.
Et Marie-Antoinette de Sofia Coppola.
Film de 2006, et il fallait donc évidemment, dans ce cas-là, trouver un personnage historique adapté du livre d'Antonia Frasser, Marie-Antoinette, publié en 2001. Le film s'inspire donc très librement de la vie de Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, dauphine puis reine de France, par son mariage avec le futur Louis XVI. Et c'est Kirsten Dunst qui interprétait le rôle de Marie-Antoinette. 1,2 million d'entrées en France. Troisième extrait de ce blind test spécial biopic de femme.
Alors comme ça, vous êtes calculatrice à la NASA. On peut dire que c'est du sérieux.
Oui, en effet.
On laisse des femmes se charger de toutes ces... Enfin... Je me suis mal fait comprendre.
Faites-vous bien comprendre?
Eh bien... Je suis surpris que des missions aussi exténuantes.
Oh, monsieur Johnson, si j'étais à votre place, je ne dirais plus rien.
Je ne voulais pas vous manquer de respect.
Vous l'ignorez sans doute, mais il se trouve que j'ai été la première doctorante noire de l'Université de Virginie-Occidentale. Tous les jours de la semaine, j'analyse les relevés manométriques pour l'aérodynamique, le frottement et la vélocité. J'effectue plus de 10 000 opérations de calcul à la main.
Ça a été trouvé, Guillaume, encore une fois.
C'est les femmes de l'ombre, de je sais plus qui.
Alors, c'est pas les femmes de l'ombre, mais c'est les figures de l'ombre, en tout
les
cas.
Les figures de l'ombre, oui, les femmes de l'ombre, c'était un très mauvais film, aussi historique d'ailleurs, mais français celui-là.
Et là, c'est réalisé par Théodore Melfi, film sorti en 2016. Il fallait donc trouver, alors là, c'était des descriptions de femmes scientifiques. Le film met en scène effectivement trois calculatrices afro-américaines qui ont contribué au programme aéronautique et spatial de la NASA. 883 000 entrées en France. Allez, un autre bien titre à trouver.
Mais est-ce que ce n'est pas intéressant de voir qu'un homme qui a exécuté tout ce qu'un système meurtrier exigeait de lui, qui révèle avec empressement tous les détails concernant la réalisation de son travail, que cet homme insiste sur le fait qu'il n'a personnellement rien contre les Juifs.
Il ment !
C'est faux, il
Anna,
ne ment pas.
Anna, tu es en train de te faire avoir.
Il a même prétendu qu'il ne savait pas où allaient les trains. Vous le croyez, là aussi ?
Pour lui, ça n'avait aucun intérêt de savoir ou non où ils allaient.
Je suis surpris que vous ne trouviez pas. Alors, il y a le prénom hein, qu'on entend, Anna.
Ah, c'est Anna Arendt.
Voilà. Anna Arendt. De Margarete von Trotta, sortie en 2013. Donc là, c'est un intellectuel qu'il fallait trouver. Exilée aux États-Unis, l'Allemande Anna Arendt est envoyée donc à Jérusalem par le New Yorker pour assister au procès d'Adolf Eichmann, criminel de guerre nazi, hein, responsable de la déportation de millions de juifs. Et on voit comment eh bien, elle a du mal à faire entendre sa pensée. Anna Arendt est connue pour son concept de la banalité du mal, à savoir que le mal se cache dans les petites choses. Un peu moins d'entrée en France, 347 000, mais c'est quand même pas mal pour un biopic qui n'était pas si facile que ça. Dernier extrait.
Monsieur, je représente ici l'autorité du général de Gaulle. Vous avez en prison un homme qui s'appelle François Vallet. Par deux fois, contre l'avis du juge d'instruction, vous avez refusé de signer sa mise en liberté provisoire. Si demain, vous ne signez pas favorablement, si le 14 au matin, François Vallet n'est pas libre, vous ne verrez pas le soleil se coucher le 14. Écoutez la BBC ce soir. Parmi les messages personnels, vous entendrez celui-ci. Continuez de gravir les pentes. Il vous est destiné. Vous avez bien compris. Continuez de gravir les pentes.
Ça fout les chocottes un peu, non? C'est quoi? Vous n'avez pas trouvé? Carole Bouquet.
Oui, Carole Bouquet. J'ai entendu sa voix, mais je ne vois pas le film.
Alors, personnage très emblématique de Sous l'Occupation.
Sous l'Occupation? Oui. Non, c'est pas Colette.
Un film de Claude Berry de 1997. Le film retrace l'histoire de la vie de Lucie Aubrac.
Ah, Lucie Aubrac.
Pendant la résistance à l'occupation nazie.
Hein. Je sais pas, c'est avec Daniel Auteuil, c'est ça.
Oui. Ouais. Et là, c'est un gros carton, puisque c'était 1,7 million d'entrées en France. Ainsi s'achève ce blind test spécial, donc biopic de femmes, voilà, à l'écran. Et donc ça, c'était pour annoncer la prochaine chronique sur Radioactive qui va ressortir dans les salles à partir du 22 juin. On vous en parlera à cette occasion. Une chronique pour toi, Guillaume, un film des années 70 où l'on voit Charles Bronson obligé de faire des combats de rue hein, pour s'en sortir.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Dans chaque ville, il y a des bars. Et dans chaque bar, il y a un mec qui se croit plus fort que Tarzan. Mais c'est toujours moi qui leur procure leur beefsteak.
C'est un minable, c'est moi qui perds dans le coup.
La sortie du bagarreur dans une très jolie version restaurée 4K chez l'éditeur Sidonis permet de remettre avec Brunner les pendules à l'heure dans la fabrication et la consommation du cinéma d'action. Car il est franchement impossible de se plonger ou de se replonger dans ce que l'on appelait à l'époque le cinéma d'action, viril ou masculin, sans pouvoir le comparer à son état actuel quelque peu sinistre. À l'heure où c'est justement ce genre de production qui font avoir aux plateformes comme Netflix leurs chiffres de fréquentation les plus hauts, et il est triste de constater qu'on tombe de manière complaisante dans le cliché qui leur était attribué il y a déjà plus de 30 ans. Si on compare Le Bagarreur avec Tyler Rake, l'actionnaire récent de Netflix qui a brisé tous les records de visionnage, c'est malheureusement au grand désavantage de ce dernier. Les deux sont des premiers films, les deux ont une toile de fond dépaysante à leur façon, mais l'un d'eux grille toutes ses mauvaises cartouches dans ce qui s'apparente plus à une bande démo de techniciens pas original pour un sou, tandis que l'autre, au contraire, se sert des capacités de son héros et de son environnement comme élément narratif, iconique et vecteur d'émotion de la mise en scène. Car dans Le Bagarreur, l'action n'est pas au premier plan, mais bel et bien un ressort dont doit se servir le héros pour pouvoir vivre et surtout survivre. Le titre original, Hard Times, fait autant référence aux méthodes musclées du personnage principal pour s'en sortir et se faire de l'argent qu'au contexte historique. Nous sommes plongés dans le monde impitoyable de l'Amérique des années 30, au moment de la Grande Dépression, et Chaney, le personnage principal donc, va devoir jouer des points de manière illégale pour gagner de quoi se sustenter. Ce boxeur va entrer dans le monde des combats clandestins à main nue, et son talent va lui donner petit à petit une renommée qui va lui apporter autant d'avantages pécuniers que de soucis avec ses semblables. Homme de peu de mots, qui s'exprime tout entier avec son corps, il va laisser la promotion de son talent au bien nommé Speed, un manager sans scrupules, qui va l'entraîner dans une gloire éphémère tachée de magouilles et de dangers.
Eh bien voilà, on marche 50-50 sur la bourse et les frais. Sur tous les paris, je garde 75%, c'est le tarif.
60-40 en ma faveur pour la bourse, 50% sur les paris.
Je viens de te dire ce qui se pratique. Le taux normal, demande à qui tu voudras.
Cette fois, c'est différent.
Pourquoi différent ?
Parce qu'en ce moment, mon vieux, t'as un pourcentage sur zéro dollar.
Figure-toi que toi aussi. C'est moi qui mets le pognon. Les risques sont pour moi.
Première réalisation de Walter Hill, Le Bagarreur est autant l'occasion pour ce dernier de montrer tout le talent de scénariste qu'il a mis à contribution pour Sam Peckinpah, John Huston, que de mettre en pratique ce qu'il a appris dans la mise en scène racée de Norman Jewison et Peter Yates sur les tournages de L'Affaire Thomas Crown et Bullitt, où il a officié en tant que réalisateur de seconde équipe. Ce coup d'éclat en forme de carte de visite va installer pour les décennies à venir les thématiques et les obsessions de son réalisateur. Chantre de l'homme de la rue, livré à lui-même et souvent seul contre tous, qu'il se positionne du bon comme du mauvais côté de la loi, le héros à la Walter Hill se déclinera dans des tours de force comme Driver, Les Guerriers de la Nuit, Sans Retour, Les Rues de Feu, Extrême Préjudice ou encore Un Seul deviendra invincible, sorte de relecture carcérale du bagarreur, tout autant que suite spirituelle tardive, où le personnage principal est cette fois incarné par un Wesley Snipes impressionnant de sobriété. Le style est nerveux, sec, sans fioritures ni bavure. C'est Charles Bronson qui incarne Chaney. Ce nom, référence à l'homme aux mille visages, est amusant tant l'acteur va se faire, à partir de ce rôle, un visage des plus reconnaissables des films d'action américains, du polar au vigilante, et dont le nom va devenir à lui tout seul une légende de la testostérone de la force tranquille, mais indéboulonnable sur grand écran. Et comme il en sera l'usage depuis 1969, il partage l'affiche avec sa femme, Jill Ireland.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je mets des types knock-out.
Tu veux dire comme un boxeur ?
Non, c'est de la boxe à points nus. On prend des paris sur moi. C'est une occupation, mais elle est provisoire.
Drôle de façon de gagner sa vie.
C'est mieux que de réparer des pneus dans un garage à 10 dollars par semaine.
Quand tu mets un type knock-out, tu es content?
Je suis bougrement plus content d'être dans ma peau que dans la sienne.
C'est une bonne raison.
Écoute, on ne raisonne pas dans ce boulot. C'est pour l'argent.
Film à l'ancienne, terme qui désormais ne désigne plus que du bonheur dans le genre, entre autres du film d'action, Le Bagarreur s'assure, avec son nouveau lifting, de traverser les 45 prochaines années, en espérant qu'on n'ait pas à attendre aussi longtemps l'arrivée d'un nouveau Walter Hill.
Venons-en au fait.
Tu ne t'embarrasses pas de phrases creuses.
Je ne t'interdis pas d'en faire.
Tu vas droit au but, j'aime ça. Au moins avec toi, les choses sont claires. On sait où aller.
Je t'arrête. Tu pourrais abréger la leçon de navigation. Tu sais nager, jette-toi à l'eau.
C'est pas une mauvaise idée.
Merci Guillaume. Le bagarreur de Walter Hill est édité donc chez Sidonis en DVD. Et puis il y a un autre DVD qui lui est édité chez un éditeur qui s'appelle L'Éclaireur. C'est celui de L'écume des jours. Alors il y a eu L'écume des jours de Michel Gondry, que peu de spectateurs semblent avoir apprécié. Mais il y en a eu un autre en 1968 de Charles Belmont qui ressort en DVD. Et c'est de ça dont tu vas nous parler, Manu.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
D'ailleurs, qui n'a pas du tout été apprécié non plus à sa sortie en 68. Et peut-être encore, enfin, il est passé encore plus inaperçu que le film de Gondry. Hein. Alors, pour celles et ceux qui ont découvert le roman culte de Boris Vian au lycée ou au collège, hein, cette adaptation méconnue, alors je répète, à échec commercial et même critique à sa sortie, se présente comme une curiosité qui recèle quand même quelques trésors. Alors, le scénario respecte globalement la structure aléatoire du livre, dans cette chorégraphie de l'amour, hein, chassé croisé des sentiments. Alors, on a Chic qui tombe amoureux d'Alise en raison d'une passion commune pour Jean-Saul Partre, une passion dévorante qui finira par fissurer le couple. Colin est épris de la ravissante Chloé qui lui rappelle un morceau de jazz de Duke Ellington du même nom, mais une maladie ronge la jeune femme, un nénuphar se développant à l'intérieur de son corps. La pénurie d'argent freine aussi leur relation. Plus légers, Nicolas et Isis paraissent davantage épanouis, en harmonie avec leur environnement, toujours promptes à aider leurs amis. Alors ce petit résumé succinct, hein, qui ressemblerait presque à un film de Claude Lelouch, comme ça, hein, n'est pas vraiment représentatif d'une narration libre comme l'air, hein, proche, on va dire, d'un air de jazz. Pour peu que l'on apprécie les films libertaires où les événements insolites se succèdent, L'écume des jours, alors sans avoir la fantaisie et le génie du livre de Vian, s'avère une jolie surprise, hein, une œuvre gentiment contestataire, très dans l'air du temps, hein, réalisée en 68, alors peu avant les événements. Cette chronique douce amère, teintée de surréalisme, s'inscrit dans la mouvance de la nouvelle vague. Quelque part entre Jean-Luc Godard et Jacques Demy, entre les afféteries intello iconoclastes de l'un et puis les délires colorés et musicaux de l'autre. Mais le charme agit par intermittence. La mise en scène soignée, parfois très inspirée, manque néanmoins de folie et de chair. Charles Belmont, alors réalisateur très méconnu aussi, qui a réalisé, je crois, en 40 ans, 4 ou 5 longs métrages à peine. Alors il s'applique et ça se sent. Il compose de jolis travelling, de plans très étudiés, toujours impeccablement cadrés, baignant dans des tons pastels. Le film manque de vie, de fantaisie, il est même étonnamment morbide. Alors cette dimension est présente chez Vian, mais elle s'intègre à l'intérieur d'un processus loufoque où règne une soif d'exister. La référence à Jean-Paul Sartre n'a rien à gadget, elle sonne comme une inspiration loufoque, hommage à l'existentialisme. Belmont semble parfois mal à l'aise avec la légèreté et le décalage.
Combien je vous dois ?
350 000.
C'est pas donné.
Vous avez la sécurité ?
Non.
Le salaire unique ?
Non.
Les allocations ?
Non.
Un père tué à la guerre ?
Non.
Un frère sous les drapeaux ?
Non.
Deux ?
Non.
Moi, à votre place, j'en parlerai à mon député.
Par manque de moyens, sans doute. Le film est débarrassé de ses figurants. Les rues sont quasiment vides. Il n'y a quasiment aucun figurant. Et les quelques gadgets qu'on pourrait dire alors rétro-futuristes se réduisent à peau de chagrin. L'absence de perspectives délirantes suggérant la modification constante de la taille des appartements est évidemment un détail absent ici. Là, c'est encore lié au manque de moyens. Alors dommage, car cet aspect n'est pas seulement un effet décoratif, mais participe à l'atmosphère inquiétante du roman. Alors ce dénuement apporte néanmoins un ton étrange, à défaut d'être anxiogène. Alors autrement quand même plus satisfaisant que la version de Gondry, que moi je trouve chic et toc et très très mauvais. Qui ressemble plus finalement à un film de Jean-Pierre Jeunet. Alors un manque d'émotion se ressent là où on devrait être bouleversé par le sort des personnages, en l'occurrence celui du couple Colin et Chloé, absolument déchirant dans le livre. Cette dimension austère, alors c'est peut-être par pudeur, est d'autant plus dommageable que le film bénéficie de la présence d'épatants comédiens, très jeunes à l'époque, dont Samy Frey, Jacques Perrin, Marie-France Pizier, Bernard Fresson, Alexandra Stewart. Ils apportent quand même une sensibilité à un film que je dirais assez... je sais pas, c'est un objet un peu désincarné, mais souvent insolite et puis attachant, au final.
Vous aurez soin de disposer des fleurs dans sa chambre, le plus de fleurs possible, de préférence, des nénuphars.
Quoi ?
Pour qu'ils pompent plaire à leurs petits copains, il faut jouer sur l'antagonisme des végétaux. Bien. Évidemment, pas d'eau. Comprenez pourquoi ?
Non.
Vous savez ce qui arrive à une fleur privée d'eau.
Et le film, alors il sort donc chez L'Éclaireur, qui est une édition je pense unique, puisque le film, si on peut le voir, c'est grâce à la monteuse qui a créé pour l'occasion cette édition particulière.
Thank you.
va essayer de cueillir cette fleur.
C'est fini?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule!
Il était question de DVD dans cette émission. Il en sera sûrement question la semaine prochaine, parce que juste avant la réouverture des salles, il y a peu de chances que des films sortent en exclusivité VOD. À la semaine prochaine.
This is Cinerama.
Meilleure santé, et à bientôt.